Herr Jesus, ja, wir loben dich. Amen. Herr, wir loben dich
Seigneur,
für diese wunderbare Zeit jetzt
nous
mit allen
t'honorons
Heiligen. Wir
pour
loben
ce
dich, dass
temps
dein
merveilleux
Strom
avec tous les frères et
wunderbar
sœurs.
auch zwischen uns fließt, Herr.
Merci pour ce
Herr,
fleuve qui coule entre nous tous. Nous sommes là parce que nous te cherchons, parce que nous t'aimons. Nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Nous te louons pour cette conférence. Merci de bénir cette conférence et chaque membre du corps. Que chacun de nous puisse te toucher, que nous puissions tous te voir. Seigneur, nous voulons te toucher. Nous te louons, Seigneur.
Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous te louons, Seigneur. Amen.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr mich hört.
Je pense que vous m'entendez.
Kann mir jemand kurz ein kurzes Feedback
Est-ce que
geben?
Quelqu'un peut me donner un petit feedback?
Oder ich schaue mal, was die Regie mir schreibt. Die sagen, ja, wir sehen dich.
La Régie dit, c'est tout bon.
Ich sehe euch nicht, das schmerzt mich ein bisschen, aber ich habe euch vor Augen, liebe Geschwister. Amen. Ja, lob den Herrn für diese
Louez le Seigneur.
Lob den Herrn für diese Konferenz.
Merci, Seigneur, pour cette conférence.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zusammenkommen können.
Je suis content qu'on puisse se réunir
Ort, online,
de façon diverse, ensemble dans la salle ou par Zoom, par électronique, mais simplement qu'on puisse ouvrir nos cœurs au Seigneur. C'est précieux. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous le remercions qu'il nous parle richement. Et je suis très encouragée depuis la conférence d'hiver où on était ensemble. Là, le Seigneur nous a déjà montré tant de choses. Il nous a montré qui il est et ce qu'il fait. On était dans Apocalypse 5. Et je voudrais lire encore une fois ce verset de Apocalypse 5. Un des anciens me dit, ne pleure point. Parfois, on aimerait pleurer parce qu'on est découragé. Nos expériences sont diverses. Et parfois, il y a du découragement. Mais je voudrais qu'on soit encouragé ce soir de ne pas pleurer. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Ce lion qui a vaincu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, notre frère, notre ami. Il est notre Seigneur et il est avec nous, frères et sœurs, aussi ce soir. Peu importe où tu es en ce moment, comment tu vas, ce Seigneur, il compatit avec toi, il est en nous, il sait de quoi nous avons besoin, il sait de quoi l'Église a besoin ces temps, et c'est si merveilleux, il est disponible en chacun de nous. Et ça, nous voulons plonger encore plus dedans, nous voulons voir ce qu'il fait. C'est si important. Pour chaque être humain d'avoir un but. Sans but, notre vie n'a aucun sens. Tu ne sais pas, tu n'as aucune motivation dans ta vie. Mais dans le Seigneur, nous avons la chance de voir des choses tellement merveilleuses qui viennent du Seigneur lui-même. Nous voulons voir ce que Dieu fait. Et nous pouvons lire ensemble, qu'on soit à la maison, dans une salle de conférence, dans une salle d'église, peu importe, nous pouvons lire ce qui est inscrit sur le résumé, le fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est le titre, en fait, de toute la conférence. Le fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous continuons aussi dans la parole et nous pouvons ouvrir Apocalypse au chapitre 22. Et là, on peut lire les versets 1 à 5. Est-ce que on peut lire ces versets depuis la salle de Stuttgart, par exemple? Est-ce que les frères et sœurs peuvent entendre si tous les frères et sœurs de Stuttgart lisent ensemble ces 5 versets. Alors, il commence la lecture. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Louez le Seigneur. Et il me montra, en fait, à nous tous. Dieu nous montre des choses. Il montre des choses à chacun de nous. Louez le Seigneur. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Quelle merveilleuse vision! Quelle image! Je ne sais pas où tu es ce soir, mais le Seigneur nous montre un fleuve merveilleux. Il nous montre une vision merveilleuse. Il ne nous montre pas quelque chose qui n'existe pas, mais quelque chose de réel. Il nous montre un but merveilleux. Il nous montre quelque chose de vraiment précieux. Nous pouvons atteindre le but qu'il veut nous montrer là, dans cette image. Ce que nous voyons dans ce chapitre de Apocalypse 22, c'est aussi ce qu'on voit déjà au chapitre 21, où il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous voyons la nouvelle Jérusalem. Nous voyons aussi que toute larme sera essuyée de nos yeux. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de pleurs. Toutes ces choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône règnera à toujours. Dieu nous parle, il parle à chacun d'entre nous. Qu'on soit petit, grand, vieux, jeune, qu'on soit dans des situations difficiles ou que tout aille bien, Dieu parle. Et Dieu dit, je fais toute chose nouvelle. Et dans le chapitre 22, il nous montre ce fleuve d'eau de la vie. Et ce fleuve, nous voulons le découvrir nouvellement. On ne veut pas juste savoir, ah oui, il y a un fleuve d'eau. Quelle merveille! Il coule. Et peut-être un jour je le verrai. Non, aujourd'hui, nous voulons déjà l'expérimenter, nous voulons déjà le goûter. Parce que Dieu est vivant et qu'il veut déjà nous donner de participer à ce fleuve qui coule. Dieu veut se révéler aux hommes. C'est tellement précieux. Et c'est particulier aussi. Dieu t'aime. Et Dieu a un mot personnel pour toi. Si tu comprends un peu tout ce qu'il a fait pour que tu puisses le saisir, c'est merveilleux. Chaque fois, mon cœur brûle quand je considère combien l'œuvre de Dieu est grande. il est tellement grand, son œuvre est si grande, et pourtant il s'intéresse à toi en particulier, toi qui es si petit, eh bien il s'intéresse à toi. Le fleuve coule, la vie coule. Ce n'est pas un thème, un sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut juste considérer. Mais nous devons réaliser que Dieu est vivant et que sa vie coule du début à la fin. C'est très important que nous puissions, nous tous, toucher cette vie, que nous entrions en contact avec cette vie, non pas seulement une fois, mais en tout temps. Ce soir, j'ai le désir. J'ai le désir de dire, mais je veux te toucher, Seigneur, je veux te connaître, je veux te suivre. Le Seigneur veut se révéler à toi. Je veux venir maintenant à Genèse. Genèse 1. C'est le tout début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Genèse 1:1 et jusqu'à 3. La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc au début, il n'y avait rien. Et Dieu, ici, commence à créer des choses pour pouvoir entrer en communion avec nous. Et Dieu a planté un jardin, comme on peut le voir dans le chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Notre Dieu a créé un environnement si merveilleux pour pouvoir entrer en communication avec nous. Quand on voit tout ce qui s'est passé déjà sur la terre, tout ce qui est aujourd'hui sur cette terre, eh bien, on réalise que ça n'était pas comme ça au début. Dieu a créé quelque chose de merveilleux, de beau, pour pouvoir être en communion avec nous. Il voudrait être si proche de nous. Et il a tout fait pour que ce soit rendu possible. Pour que nous puissions être unis à lui et lui à nous. Et que nous puissions recevoir de tout ce qu'il a lui-même créé pour nous. Je voudrais... encore là j'ai perdu le fil. Tout ce qu'il a créé, tout ce que Dieu a créé est très simple à voir. On peut le voir de façon très facile avec nos propres yeux. Pourquoi Dieu a tout créé? Pour que tu puisses comprendre que Dieu veut et cherche la communion avec toi. C'était Romains 1:20. Ensuite, on voit dans Actes 17, verset 24. Actes 17, 24, un peu comme Genèse. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est lui qui donne toute la vie, qui donne la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Pourquoi ? Pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Jusqu'au verset 27. Je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas si quelque chose te manque, mais si tu lis cette parole, tu peux réaliser que le Dieu qui est avec nous, qui est dans la vie de l'Église, eh bien, si tu cherches ce Dieu-là, il va se laisser trouver. Et tu pourras avoir toutes choses. Il va combler tes besoins, tes manques. C'est une promesse si merveilleuse. En tout cas, il se laisse trouver. C'est quelque chose de certain. En lisant les évangiles, on peut lire dans Marc, on voit que Jésus a ici communion avec ses disciples. Marc 4, verset 34, 33 déjà. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Quand ils étaient entre eux, eh bien, il leur expliquait. Nous avons un temps si merveilleux de conférences ensemble. Et le Seigneur est au milieu de nous, il est avec nous et nous explique toutes choses. Il veut se révéler. Si tu as des questions, si tu as des choses que tu ne comprends pas, si quelque chose te freine, eh bien, va vers le Dieu vivant. Va vers Jésus. Lui, il t'explique tout. Il va se révéler à toi. On peut lire encore dans Jean 17, le verset 3. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est une position si merveilleuse que nous avons en Dieu. Nous pouvons le connaître. Nous le connaissons et de ce fait, nous avons la vie éternelle. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, je veux te connaître encore plus, encore mieux. Dans cette conférence, Seigneur, révèle-toi encore plus à nous. Nous voulons te voir comme tu es. Nous voulons te connaître davantage. Amen. Nous voyons cette vision dans Apocalypse 22, ce trône merveilleux. Là, il y a le Dieu vivant. Et il y a aussi l'agneau. Et il y a un fleuve qui coule. Ce fleuve commence au début de la parole et il se répand au travers de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et jusqu'à la fin de la Bible. C'est une image merveilleuse. Que penses-tu, toi, de ce fleuve? Qu'est-ce que cela a à voir avec ta vie, avec toi? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que cela imprègne en toi? Et où es-tu aujourd'hui? Où es-tu? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Où est-ce que je suis? Bon, je suis dans mon salon, à la maison. Oui, géographiquement, c'est juste. Je suis à Pforzheim. Mais dans le point de vue de Dieu, où est-ce qu'on est? Quand Dieu regarde à nous, il se demande où es-tu? Quelle est ta position? Est-ce que tu es conscient où tu es aujourd'hui, où tu vis et quel est le but de ta vie? Il y a des hommes qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Seigneur Jésus, et il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Et si on regarde dans Éphésiens 2, on peut voir combien c'est important pour nous d'avoir reçu ce Seigneur dans notre cœur. Ephésiens 2:2. Hein, déjà, nous étions morts dans nos offenses, par nos péchés. Donc l'homme sans Dieu est mort. Donc il est séparé de Dieu. Il ne comprend pas ce que Dieu veut. Il ne comprend pas qui il est. Il ne le voit pas. Comme quand Nicodème est venu vers Jésus et qu'il lui a posé la question au sujet du royaume, Jésus lui a dit, mais tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si ce n'est que tu naisses de nouveau. Ephésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants par Christ. Si tu es mort, eh bien, il n'y a plus rien qui se passe. Mais nous ne sommes pas destinés à la mort. Nous sommes destinés à la vie qui coule. Et c'est pourquoi nous devons être vivants. Comment être vivant? Quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 18 ans, nous avons eu une réunion de jeunes. C'était à l'étranger et quelqu'un m'a demandé en anglais, « Michael, est-ce que tu es sauvé ?» Puis je me demandais, « Mais qu'est-ce qu'il veut de moi, celui-là ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'a expliqué, « Sais-tu, un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur est mort. Et est-ce que tu ne veux pas recevoir ce Seigneur Jésus dans ton cœur ? Ne veux-tu pas recevoir cette vie éternelle ? Ne veux-tu pas le connaître ? Et connaître pour la raison pour laquelle tu as été créé ? » Puis je me disais, ben ouais, pourquoi pas, j'étais assez loin de tous mes amis, de ma famille, mon environnement que je connais. Et parce qu'ils auraient certainement dit, mais ça va, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai secrètement, en fait, j'ai accepté le Seigneur d'une façon très discrète. Et ce frère m'a dit, il y a une manière très simple de recevoir le Seigneur Jésus. Tu peux croire dans ton cœur, tu crois simplement que tu es mort avec lui. Et tu dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. C'est tout facile. Pourquoi est-ce que c'est simple? Parce que Dieu veut, il te veut toi. Et il ne veut pas que ce soit compliqué. Il veut que ce soit tout simple pour que chacun puisse y accéder. Si tu l'invoques, eh bien tu seras sauvé. Tu passes de la mort à la vie. C'est si important, si beau de voir qu'on peut recevoir cette vie divine. Je suis sauvé et je ne serai pas jugé. Je ne serai pas condamné. Dieu est maintenant mon Père. Tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, il leur a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Si tu es mon enfant, nous sommes tous des enfants, nous avons tous été enfants de nos parents. Personne ne peut retirer ça de toi. Tu as des parents, chaque enfant a des parents. En tant qu'enfant, nous sommes parfois impossibles à vivre, désobéissants. Et nous nous révoltons, mais peu importe, tu seras toujours un enfant de tes parents. Et la même chose avec Dieu. Si tu es sauvé, tu seras toujours l'enfant de ton Père, ton Dieu. Nous ne pouvons plus sortir de cette relation. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Cela ne changera jamais. Personne ne peut nous enlever de la main de notre Père. C'est pourquoi ne doutons jamais de notre salut. Même si tu as fait quelque chose qui n'était pas bon, si tu as menti, que tu as triché, trompé quelqu'un, peu importe. Cela ne changera rien à ton lien avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et, autre bonne nouvelle, tu peux tourner ton cœur et tu peux dire, Seigneur Dieu, Père, je te demande pardon, je reviens à toi, je te donne mon cœur et merci pour le sang qui me lave, qui me purifie maintenant. Et parfois, tu as des pensées qui reviennent, puis qui disent, mais tu es un méchant, tu n'as aucune possibilité de t'approcher de Dieu. Non, c'est un mensonge, tu peux t'approcher et Dieu te pardonne. Nous voulons encourager tout le monde ce soir. Si quelqu'un n'a pas encore été baptisé, eh bien, sois baptisé, parce que ça va avec la foi. Crois et laisse-toi baptiser. Quand tu es baptisé, tu te laisses transférer dans ce corps, le corps de Christ. Nous sommes transférés en Christ et c'est quelque chose de tellement beau. Et que faut-il pour cela? Que faut-il faire? Est-ce que je dois savoir un petit peu des choses de la Bible, les choses essentielles? Est-ce que je dois apprendre des choses, ou est-ce que je dois faire mes devoirs correctement, ou ne pas pécher pendant un certain temps? Non, non, il n'y a aucune loi, aucune règle, aucune restriction qui peut t'empêcher de te faire baptiser. Il suffit de croire. Le Seigneur voudrait qu'on avance, qu'on vienne vers lui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut t'empêcher d'avancer, et ça c'est le diable. Il cherche toujours à te détourner de ce que Dieu fait. Quelle est la condition pour être baptisé? Simplement le fait de croire. Si tu veux te laisser baptiser, laisse-toi baptiser. Si tu n'as pas ce désir, eh bien laisse le Seigneur faire. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 12, j'imagine. On va voir. Alors, 1 Corinthiens 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons revêtu Christ. C'est merveilleux de voir qu'on peut revêtir Christ comme un vêtement qui vient sur nous. Tu revêts Christ. En te laissant baptiser, tu revêts Christ. Il est ton vêtement. Si quelqu'un te dit, regarde comme tu es mauvais. Oui, tu as raison, je suis mauvais, mais maintenant je suis en Christ. Tout ce qui est vieux est passé. Seigneur, je ne peux rien faire, je suis incapable, mais je me base sur toi. C'est une telle libération. Nous pouvons la découvrir nouvellement. Toujours à nouveau. Apprécie cette position que tu as en Christ. Nous sommes en Christ. Et nous sommes ensemble avec Christ. Et nous avons été assis ensemble dans les lieux célestes. Ephésiens 2, 6. Nous sommes en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au chapitre 1, c'est écrit qu'on est au-dessus de toute domination, de toute autorité, non seulement dans cet âge, mais aussi dans l'âge à venir. Nous avons une position si merveilleuse et on peut vraiment louer le Seigneur. Le Seigneur a tellement payé pour ça. Il s'est donné entièrement pour nous. Si tu lis ce que le Seigneur a enduré, rien que comment il a commencé sa vie, comme bébé, dans une crèche, aucune place dans l'hôtellerie, ensuite ils ont dû fuir, ensuite il a été injurié, et puis il a dû supporter tant de souffrances. Personne d'entre nous ne peut vivre d'une telle manière. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Il a laissé sa vie. et il a laissé tant de choses venir sur lui. Nous pouvons louer le Seigneur pour cela. Quand as-tu loué le Seigneur la dernière fois? Tu peux juste le louer pour lui dire, mais merci d'avoir libéré ce chemin pour moi. Merci de m'avoir donné l'accès. Et nous devons voir maintenant, le Seigneur nous a montré ce merveilleux fleuve. Il nous a montré cette position merveilleuse. Là, il y a le fleuve et là, il y a notre position. Et on est ensemble. Les deux se rencontrent pour pouvoir expérimenter le Seigneur. Et c'est ce qui est aussi écrit déjà dans les psaumes. Psaume 45, 5, 46, 46, 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Je suis aujourd'hui un membre du corps.
In Bonn, in Karlsruhe, in Berlin, in New York.
À New York, je ne sais pas, peu importe. Mais Dieu nous a amenés dans sa maison, d'une façon très pratique. Et dans l'Apocalypse, on voit donc ce fleuve qui est tellement accessible pour nous dans la vie de l'Église. Donc, psaume 46, 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Nous avons un fleuve si merveilleux dans la vie de l'Église. Dieu coule. Dans Genèse, déjà, la vie coulait. Ce fleuve coule. Et en traversant la parole, si on regarde par exemple dans Ézéchiel, très rapidement, nous voyons ce fleuve aussi dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. Et ce fleuve a produit quelque chose. As-tu vu ce fleuve? Ézéchiel 47, 1 à 12. Il y a une maison dans laquelle le fleuve coule. Il y a un torrent qui est là et qui coule. Et si je vais dans Apocalypse 21, au verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ce fleuve continue donc de couler jusqu'à la fin. Dieu est là toujours, en tout temps. Là où il y a Dieu, il y a la vie. Et pourquoi ça coule depuis sa personne? Parce que je peux le boire, je peux le goûter, je peux voir comment. Comment ce fleuve coule. C'est merveilleux de voir un torrent qui coule. Dieu est si proche et on peut l'expérimenter. La même chose que tu vois couler une rivière. Le Seigneur s'est laissé briser. Le Seigneur a en fait ouvert la voie pour que cette eau coule. Jésus s'est donné pour nous en tant qu'eau de la vie. Psaume 105. Il est comme un fleuve dans le désert. La terre aujourd'hui, ce monde n'a aucune perspective, aucun avenir. Nous allons d'une crise à l'autre. C'est un désert. La parole nous montre qu'il n'y aura pas de paix. Il y aura des guerres jusqu'à la fin. Mais il y a un fleuve qui traverse ce désert et ce Seigneur est le fleuve. On peut lire dans Jean 19, 34, quand Jésus est mort, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Avant, c'était psaume 105, 41. Jean 19, 34, le sang et l'eau sont sortis du côté de Jésus. Nous sommes sauvés, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous avons la hardiesse, la liberté de rentrer en communion avec Dieu. Nous pouvons venir à lui. Chaque fois qu'il y a un problème, tu peux dire, Seigneur, nettoie-moi, purifie-moi. Je laisse mes pensées corrompues. Je veux sortir de mon moi. Je veux avancer avec toi. Seigneur, j'ai une mauvaise conscience, mais je viens à toi et je te prie de me laver. Ce sang me purifie. Dans 1 Jean, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute impureté, de toute imperfection. Dieu va nous laver. Et donc, ce sang a coulé pour nous, et aussi l'eau, la vie, l'eau de la vie. Il a libéré cette eau-là. Ça a été prophétisé il y a longtemps. Il n'y a rien que le Seigneur ait fait qui n'a pas été déjà prophétisé. Le Seigneur parle et cela se produit. Nous parlons beaucoup, mais nous retenons peu. Et Dieu, tout ce qu'il dit, s'accomplit à 100%. Il n'y a rien qui passe tout droit. Il n'y a rien de trop ou de pas assez qu'il ait dit. Dieu fait ce qu'il dit. Il est bien plus merveilleux que tout ce que tu peux penser. Nous voyons trop peu. Si nous voyons mieux, nous saurions dans quelle œuvre merveilleuse nous sommes aujourd'hui. Quel est ton but dans ta vie? Est-ce que tu as déjà considéré ce que tu veux faire dans ta vie? Les jeunes, tout principalement, ont des objectifs, des rêves. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre? Peut-être tu as quelque chose d'énorme que tu voudrais accomplir. Quand j'aurai fini mes études, je voudrais faire ceci, cela. Waouh! Ouais, ça me plairait. Moi, je te dis une chose. Peu importe ce que tu considères de faire, l'œuvre dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est la plus grande des choses que tu puisses expérimenter. C'est immensément plus grand que tout ce que tu pourrais t'imaginer de bien. C'est si précieux. Et tu peux vraiment rendre grâce au Seigneur pour ça. Une fois, je marchais dans la rue et je disais, mais merci Seigneur. Seigneur, je suis dans l'église. L'église est réelle aujourd'hui. Et je suis dans cette église. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? C'est magnifique que tu m'aies choisi. Merci que tu m'aies montré ça. Et on peut vraiment louer le Seigneur pour ça. Le Seigneur a promis. Excusez-moi, je me suis un peu distancée, mais je reviens dans Jean 7, 38. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais Jésus est glorifié, il est ressuscité, il est monté vers le Père, et il est monté sur le trône, il a vaincu la mort. Il est devenu l'Esprit, comme c'était écrit déjà en avance. Il est cet Esprit qui donne la vie. Il est cette vie, ce fleuve d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Et il fait mention de ce fleuve par rapport à l'Esprit. L'Esprit que tu as reçu, c'est un fleuve d'eau. Tu es un récipient comme ce verre. Ce verre est fait pour être rempli de quelque chose. Un verre ne sert à rien s'il n'a pas quelque chose qu'on fait couler dedans. Ça n'a aucune fonction s'il n'est pas plein d'eau ou plein d'un autre liquide. Donc nous aussi, nous sommes des vases, des récipients pour pouvoir être remplis. Nous devons nous laisser remplir par le Seigneur. Si tu n'es pas rempli, alors ta fonction est inutile. Ce verre sans contenu n'a aucun sens. Mais quand tu le remplis d'eau, alors il prend tout son sens. Tu pourrais mettre un tas de choses dans le verre. Tu pourrais mettre un stylo, tu pourrais mettre divers objets, peu importe. Mais il est en fait prévu pour contenir un liquide. Aujourd'hui, dans la vie humaine, on te propose tant de choses. On te propose la télé, l'internet, des jeux, toutes sortes de choses pour te remplir. Mais il y a une seule chose qui compte. Des coupures de son. Voulons-nous nous laisser remplir par n'importe quoi? Non, nous sommes destinés à être remplis de Dieu. Dieu veut nous remplir de lui-même. Cette eau qui coule, elle assainit toute chose. Ça, c'est merveilleux. Chaque jour, si tu bois de cette eau, si tu es donc connecté à l'Esprit, eh bien, ça va te changer, ça va t'assainir progressivement. Si tu ne bois pas d'eau pendant quelques jours, ça va te changer complètement. Tu dois boire de l'eau pour vivre. Et je te dis, si tu bois le Seigneur, ça va te changer. Le Seigneur l'a dit. Quand Dieu te promet quelque chose, ce n'est pas des paroles vaines. Mais quand Dieu dit, il le fait. On peut prendre dans 2 Corinthiens. Seigneur, merci parce que tu as dit, nous pouvons prendre cette parole et vraiment remercier le Seigneur. Waouh, tu as dit et ça se passe. Tu peux même dire au Seigneur des choses qui te perturbent. Tu peux lui dire par exemple, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu es réel? Est-ce que tu es vivant? On peut poser des questions au Seigneur, comme nos enfants nous posent aussi des questions, des fois un peu pointues. Tu peux même tout lui dire, tout lui demander. Le Seigneur te répondra toujours. Dans 2 Corinthiens 4, Alors, la lettre tue, mais l'esprit rend vivant. Chapitre 3. Or, le 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, j'aimerais bien expérimenter la parole. Mais tu dis que tous ceux qui te contemplent avec un cœur ouvert, eh bien, ils te verront. Seigneur, nous voulons te voir. Oui, si nous regardons le Seigneur, si nous le contemplons, alors effectivement, nous le reflèterons et nous serons changés. Nous pourrons vraiment le refléter. Nous aurons la même image que lui, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand tu te maries, tu te laisses du temps. Le Seigneur a un standard très élevé. Il veut son épouse, il l'a sous les yeux. Il sait qu'il la désire. Et c'est la même chose que notre mariage terrestre. Nous considérons notre époux, notre épouse, notre conjoint, et nous voulons nous marier. Et la même chose avec Christ. Christ attend son épouse et il a ses yeux sur elle. Et il la veut, il la désire. La mort ne peut pas retenir la vie. La mort n'a pas pu retenir Jésus dans la tombe. Cette vie est ce fleuve aujourd'hui qui continue de couler. Il coule aujourd'hui. Il doit couler. J'aimerais vous encourager de laisser cette vie vous imprégner. Quand j'étais jeune, j'avais une phase où je disais, bon, je remplis mon verre un petit peu avec autre chose. Ça va déjà aller si je mets autre chose que de l'eau de la vie dedans. L'expérience était que, à la fin, je m'étais éloigné du Seigneur. Et je ne savais même plus à la fin si j'étais sauvé ou pas. Tout ce qui était important pour moi, tout d'un coup, ça avait disparu, c'était dilué. Mais, oui, Seigneur, j'ai pu me tourner. Je me suis repenti et j'ai recommencé à manger et à boire cette vie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était une expérience tellement forte que je ne voudrais plus commencer à mélanger des choses. J'avais soif. Et je voulais vraiment que le Seigneur me touche. J'avais besoin de me retourner, de revenir à lui, de me repentir. Et le Seigneur m'a sauvé. Il m'a délivré. Il a tourné ma vie. Il a remis toutes choses sur la bonne voie. Et je suis heureux de boire cette eau jusqu'à ce jour. Ne pense pas que si tu arrêtes de boire, tout va aller bien. Non. Il s'agit de cette expérience personnelle avec Dieu. Personne ne peut boire pour toi. Personne ne peut s'approcher de Dieu pour toi. Aujourd'hui, tu es là. Tu es en train d'écouter la parole. Et c'est une bonne chose. Mais nous devons toujours refaire cette expérience. Seigneur, je veux prendre. Seigneur, je veux boire. Je veux expérimenter ce fleuve. Seigneur, je veux me donner à cela. Tu dois te décider tous les jours. J'avais une grand-mère croyante. Elle m'a dit, Michael, tu dois te décider entièrement, 100% pour Dieu. Et puis je lui disais, mais je me suis déjà décidé, j'ai reçu le Seigneur. Et elle m'a dit, mais il y a un pas de plus à faire. Elle voulait me dire, mais consacre-toi entièrement à Dieu. Et j'ai déclaré, Seigneur, je veux me donner entièrement à toi. Je me donne pour ton plan. Je comprends peut-être pas grand-chose, mais je sais que tu es bon et que tu veux du bien, que tu me veux du bien. Et je veux me donner à toi. Quand les disciples étaient en pleine mer et qu'ils n'ont pris aucun poisson, le Seigneur a dit, mais jetez vos filets encore une fois. Puis Pierre a dit, mais non, j'ai rien pris de toute la nuit. C'est pas maintenant que ça va mordre. Eh bien, il l'a quand même fait. Il a jeté les filets et étonnamment, les filets étaient pleins de poissons au point de craquer. Et quand ils étaient sur le rivage, ils n'ont pas dit, bon, on va ouvrir un grand marché aux poissons. Parfois, tu as des bonnes offres. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a donné beaucoup de fruits et tu te dis, waouh, ça vaut peut-être la peine d'ouvrir un marché aux poissons. Mais en fait, non. Non, tu seras jamais heureux si tu commences à faire des marchés avec le Seigneur. Considère d'abord le royaume de Dieu. Considère le Seigneur lui-même comme étant tout pour toi. Alors tu seras heureux. Le Seigneur s'occupera de tout. Tu peux tout laisser de côté pour ce Christ. Chacun de nous doit vraiment se décider pour Dieu. Peu importe de combien de choses tu es rempli, de combien de choses tu t'occupes. Si je ne m'occupe pas de ma relation, même avec mon épouse, tous les jours, eh bien, ma relation de couple va aller de mal en pis. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si je ne m'occupe pas de ma relation avec lui, eh bien, ça ne va pas aller. Il faut que je me lève à 5 heures du matin, il faut que j'aie la Bible, il faut que j'aille à toutes les réunions. Il faut ça, ça et ça. Ça, c'est l'ennemi qui te met un tas de règles, un tas de lois qui vont t'appesantir. Non, il faut que tu aies de la joie. Seigneur, tu commences comme ça. Seigneur, je t'aime et je te donne mon cœur. Et le Seigneur va faire tout le reste. Il ne va rien exiger que toi, tu ne peux pas donner et que tu ne peux pas faire. Il sait ce que tu peux. Toi, donne-toi à lui. C'est tout, ça suffit. C'est tellement précieux que toi, tu te donnes. Dis-le simplement à Jésus. Seigneur, je te veux entièrement. Et dis aussi aux gens qui sont autour de toi, à qui tu appartiens, que ce soit aux études, à l'école, peu importe, au bureau. Eh bien, c'est une occasion de partager, de dire aux autres, je crois en Jésus-Christ. Ça fait du bien, c'est bon, ça te sanctifie dans ton lieu, dans ton environnement de travail. Tu commences simplement à dire combien le Seigneur il est bon pour toi. Tu dis ce que tu as entendu, ce que tu as touché, ce que tu apprécies. Et tu témoignes ainsi tout simplement de ton Seigneur. Nous sommes ces gens aujourd'hui qui se donnent au Seigneur et qui sont consacrés à lui. Cette œuvre que Dieu fait aujourd'hui, il l'a fait avec nous. Nous ne pouvons pas le laisser faire tout seul, nous ne pouvons pas faire sans lui. Nous avons une œuvre commune avec lui et lui avec nous. Bien sûr, il a l'autorité pour tout faire tout seul lui-même, sans problème. Bien sûr, il en a la capacité. Mais il veut le faire avec nous. Comment fait-il cette œuvre? Eh bien, dans le fait que nous nous décidions pour lui, que nous nous donnions à lui. que nous lui offrions notre cœur. Seigneur Jésus, je veux connaître ce fleuve d'eau de la vie, je veux te connaître ensemble avec mes frères et sœurs, avec ma famille, avec mes amis. Je ne veux pas aller ailleurs, je veux obéir et te suivre là où je suis. Je veux goûter ce fleuve d'eau de la vie qui est limpide comme du cristal. Seigneur, fais-le. C'est mon fardeau ce soir, que chacun de nous se donne au Seigneur, que chacun de nous lui donne son cœur. Louez le Seigneur. Amen.